La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici Pierre-Yves McSween.
Alors, notre ami Pierre-Yves va développer une thématique encore une fois ce matin. Peut-être que tu testes les chapitres de ton prochain livre, c'est-à-dire l'argent, le couple, l'amour. Premier sujet, les erreurs à éviter au moment de la séparation.
En fait, c'est un amalgame de plein de questions que je reçois à cause du thème qui m'excite, tu comprends?
Oui.
Et ce matin, j'ai un exemple de l'ensemble des questions que j'ai reçues dans les dernières semaines. La première erreur que je vois, c'est sous-estimer le train de vie frauduleux qu'il faudra assumer après la séparation. Je dis, hein? Oui, parce que quand on vit avec quelqu'un qui joue avec le fisc, je te donne un exemple, un entrepreneur en construction qui paye l'épicerie cash. Après la séparation, ce train de vie-là, il n'existe pas au plus. Et j'ai lu un jugement qui dit qu'une dame qui a prouvé que son ex-conjoint fraudait le fisc. Et la preuve qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit, regardez, il y avait juste dans ses relevés de carte de crédit 600 quelques dollars par année d'épicerie et autres frais divers. Donc, on se comprend qu'on payait tout cash. Et donc, elle a tenté de faire démontrer à la cour qu'il y avait un plus gros revenu qui n'était pas déclaré et qu'elle devait recevoir une pension alimentaire basée sur un plus gros revenu. Et elle l'a eu. Okay. Donc, il y a une différence entre l'Agence du revenu du Canada puis le droit matrimonial. C'est-à-dire, si tu réussis à prouver que la personne a un plus gros revenu que déclaré, tu peux l'exiger même s'il n'existe pas chez notre gouvernement. C'est spécial.
Bon point.
Deuxième erreur, ne pas régler les aspects fiscaux des dettes. Exemple, vous avez signé une dette avec quelqu'un pendant que vous étiez en amour et finalement, vous n'êtes plus en amour, mais la dette est restée. Puis vous aviez oublié que vous aviez signé cette dette-là puis vous ne l'avez pas réglée. Tu as dit alors, ben garde la dette puis tu paieras. Mais la personne sait très bien que tu es co-signataire ou que tu l'as cautionné. Donc, elle ne paie pas la dette et c'est toi qui reçois l'huissier. Troisième erreur, ne pas se faire conseiller par un avocat pour sauver quelques piastres. Hey, ça, là, je ne sais pas combien de personnes tentent de régler le contrat le plus important de leur vie sans faire intervenir un spécialiste du légal. Et pour sauver 1000 piastres, 2000 piastres, 3000 piastres, mais l'avocat va te dire, hey, il va te faire penser aux droits que tu peux avoir sur ton ex-conjoint ou conjointe. Je te donne un exemple. Ton ex-conjoint ou mari était avocat associé dans une firme. Combien ça vaut la part? T'as-tu droit à ça? Y a-tu un régime de retraite dans le cabinet? L'avocat, lui, il a de l'expérience. Il a vu la jurisprudence. Il est capable d'évaluer. L'autre affaire, si ton ancienne femme était entrepreneur, puis il y avait beaucoup de dépenses dans sa compagnie, l'avocat a des jugements sur lesquels il peut se baser pour dire, écoute, telle portion de frais est réaliste et raisonnable, ça, c'est de l'excès. L'autre affaire, c'est que le contrat légal, à la fin, va servir à te protéger contre le futur. Si les deux ont signé qu'ils sont d'accord avec le règlement, ça va t'aider à ne pas te faire poursuivre dans quelques années. L'autre point intéressant, il y en a toujours plein, là, mais j'en ai un autre. Quand tu arrives au niveau de traîner les procédures de divorce, ça, je sais qu'il y en a qui se sentent coupables puis qui veulent se rendre ça tranquillement, pas vite, sur 2, 3, 4 ans. Mais n'oubliez pas que votre patrimoine continue de se cumuler. Donc, si vous êtes encore marié après 3 ans, puis que vous avez doublé votre valeur, mais votre ex a doublé sa valeur aussi, puisque vous n'êtes pas divorcé et vous n'avez peut-être pas signé ou précisé à la cour ou à un avocat que vous étiez séparé, donc le patrimoine s'arrêtait. Et donc, il faut demander à régler la patente. Et aussi, disons que tu donnes de l'argent à ton ex pendant 2 ans, puis tu dis, ben ça, c'est une pension que je te verse, mais c'est pas défini nulle part. La personne peut dire « Non, non, c'était pas une pension, c'était un remboursement de dépenses de notre vie conjugale séparée et donc ça compte pas dans le calcul. » Ça peut aller loin, hein? Et le cinquième point très important, on néglige trop souvent l'aspect fiscal. Je te donne un exemple. Je vais garder la maison qui a 200 000 de capital dessus. Toi, garde tes REER. Alors, la personne dit « Moi, je vais garder 200 000 net, puis toi, garde ton 200 000 imposable à ta retraite. » Et donc, ça vaut pas la même chose. Même chose quand vous avez, par exemple, un chalet puis une maison d'à peu près la même valeur. Faut pas oublier que le coût fiscal des deux n'est pas le même Et comme vous les avez possédés les deux en même temps, vous n'aurez pas l'exemption de gain capital sur les deux résidences en même temps. Donc, dépendant comment vous transférez les actifs, ça se peut qu'il y en ait un qui se retrouve avec un actif où il n'y aura pas d'impôt à payer, puis l'autre, il n'y a pas pensé, mais il y a un gain latent sur lequel il doit payer de l'impôt. Alors, des questions comme ça, Paul.
Ça veut dire se faire accompagner par des gens qui sont des experts, parce que, tu sais, on n'est pas des comptables, on n'est pas des avocats, on ne sait pas trop.
Puis la meilleure façon. Paul, j'ai un truc, là.
Oui.
Pour les initiés. Si vous voulez vous rematcher avec quelqu'un qui pourrait vous aider, un avocat en droit matrimonial ou un avocate en droit matrimonial, ça peut être pratique. Tu sais, comme premier chum, première blonde après une séparation. Non, mais tu sais, il peut te conseiller puis il peut te faire ça gratis. Non, mais Paul, il faut savoir saisir les occasions d'affaires.
C'est un bon point. Ton autre volet ce matin, ça concerne la relation dans le couple quand vient le moment de parler d'argent, d'économie. Puis tu poses la question, est-ce qu'il y a de la violence financière? C'est quoi ça, de la violence financière?
La violence financière, c'est quand il y a une espèce de pouvoir ou d'agression qui est faite en lien avec l'argent. Je te donne un exemple. C'est basé sur trois facteurs souvent. Le RDC, le revenu, c'est-à-dire la différence de revenus, la dépendance envers quelqu'un, le D, et le contrôle, le C. Et je te donne des exemples de personnalités un peu caricaturales. Il y a le passif agressif, tu sais. La personne qui te fait des commentaires tout le temps, mais qui finissent par être de la violence. Je te donne un exemple. Ouais, t'as encore dépensé. C'est quoi cette dépense-là? Ça, c'est le passif agressif. T'as aussi l'anal rétentif contrôlant. Lui, il est strict, tu sais. Il veut pas que rien dépasse. Il va vérifier chaque scène. Il va valider tout. Il est comme un peu trop intense sur le contrôle des dépenses. Après ça, t'as le suranalyste. Ça, c'est la personne qui va te sortir un chiffrier Excel de tes trois derniers mois de dépenses, puis qui va analyser les écarts, puis qui va te dire, « Sais-tu quoi? T'as dépensé 6,8% de plus en café ce mois-ci. Pourquoi? » Là, t'as le centralisateur. Ça, c'est la personne qui décide de tout contrôler, prend toutes les tâches financières et t'empêche de voir. Il dit, « Faites-en pas, je m'en occupe. » C'est pas nécessairement pathologique, mais il y a un lien de contrôle et donc une violence implicite derrière ça. Il y a aussi le style pompier double vie. Jeune pompier, c'est un exemple. La personne, elle te fait violence financièrement parce qu'elle te l'a pas dit. Elle a deux personnes à entretenir en même temps.
Voilà.
Il y a le dominateur. Hein. Le dominateur, c'est le partenaire de vie qui a une position financière si précaire et isolée que l'autre la domine. Décide de contrôler ses finances, décide de signer les papiers à sa place, dit « t'as plus besoin de compte personnel, je vais tout prendre sous mon compte ». T'as l'écureuil délirant aussi. La personne qui, chaque pièce dépensée, est une pièce de trop. Ça, j'avoue que ça pourrait me ressembler.
Toi, t'es quoi, au juste? Ouais, c'est ça.
Ouais, moi, je pourrais être l'écureuil délirant, Paul, mais j'ai changé. Mais faut pas oublier que tout ça, ce sont des extrêmes. C'est pas parce que vous vivez un peu de ça que c'est de la violence.
Non.
Je te donne l'autre exemple. Le loose cannon ou le saboteur. Ça, c'est la personne qui nuit à tes finances personnelles parce qu'elle fait mauvais coup après mauvais coup, insouciance, paye pas l'assurance, paye rien. Et il y a finalement l'ex qui ne veut pas payer ou qui ne veut pas travailler et qui engrange, dans le fond, des dépenses financières supplémentaires.
On a hâte de lire tes chapitres.
Oui, mais Paul, ça, ce n'est pas de la violence à tout coup.
Non,
ce
non.
sont des caractéristiques de
oui,
violence.
Oui, oui. Bien comprendre avec qui on partage la vie.
Je vais aller jouer mon écureuil.
Salut.
C'est 23.